semaine d'actualité. Pierre-Edouard Delpic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction. Dans la seconde partie du magazine, après le flash, nous partirons pour l'Afrique, pour le Nigeria notamment, après les élections présidentielles en particulier. Victoire donc d'un revenant, l'ex-général Muhammadu Buhari, qui s'est engagé à combattre Boko Haram et aussi la corruption. Écoutons-le.
Je pense que le fait de rendre les gens comptables de leurs actes à tous les niveaux de responsabilité est l'une des solutions. Les lois existent. Le problème, c'est qu'elles ont été ignorées pendant longtemps et qu'une culture de la corruption a pu se développer. Il faut stopper cela immédiatement. Et je vous assure que si nous arrivons à enrayer cette corruption, nous aurons les ressources nécessaires pour améliorer nos infrastructures, pour soutenir l'agriculture et les mines, ainsi que pour offrir des emplois à tous ceux qui n'en ont pas.
L'actualité africaine donc après le flash et nous aurons rendez-vous aussi avec vos messages. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est Bernard Godard, ancien fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, ancien policier aussi des renseignements généraux. Voilà, vous savez tout, c'est dit. Spécialiste des questions de l'islam en France. Il vient d'écrire La question musulmane en France, précisément, un livre publié chez Fayard. Bonjour Bernard Godard.
Bonjour.
Alors nous allons parler des musulmans en France dans une actualité internationale marquée une fois encore par le djihadisme, l'islamisme. Et d'abord, une question sur le titre. Pourquoi c'est ce titre? La question musulmane en France qui me fait penser à autre chose.
Alors c'est voulu, c'est une double signification. La première signification, c'est une référence à ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire est-ce qu'on a une nouvelle question concernant une religion considérée comme exogène, et c'était le cas à la fin 18e, 19e et début 19e pour les juifs. Mm-hmm. D'ailleurs, il y avait un remarquable petit opuscule écrit par Karl Marx là-dessus, sur la question juive, et qui effectivement posait la question de l'intégration des juifs dans les sociétés européenne. Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est, y a-t-il la construction d'une question musulmane? C'est-à-dire, est-ce qu'on la construit? Est-ce qu'elle existe vraiment? Donc, c'est la double entrée.
Il est délicat, Bernard Godard, de parler des musulmans de France dans une actualité aussi lourde. Oui. International, sur le plan international. C'est important, l'actualité du monde, l'islamisme a des retentissements sur l'islam de France, mais il n'y a pas que ça, évidemment.
Non, il n'y a pas que ça. Et vous savez, moi, je suis habitué parce que depuis les années 80, en fait, à chaque fois que les musulmans de France ou d'Europe en général essayent effectivement de se territorialiser, de s'implanter, de vivre normalement leur système, ils sont toujours rattrapés par le contexte international. Et là, aujourd'hui, ils le sont encore plus à cause effectivement de faits plus spectaculaires, on va dire.
Avant de parcourir le monde, donc, Bernard Godard, écoutons Manuel Valls, le Premier ministre, après la sévère défaite des socialistes aux élections départementales dimanche dernier. Cela ne l'empêchera pas de continuer sa politique, a-t-il dit, soulignant aussi la montée du Front National qui, précisons-le, n'a obtenu aucune présidence de département.
Les scores très élevés, beaucoup trop élevés, de l'extrême droite restent plus que jamais un défi pour tous les républicains. Et c'est la marque d'un bouleversement durable de notre paysage politique dont chacun devra tirer les leçons. Je continuerai, pour ma part, à dénoncer avec la plus grande force les solutions dangereuses que l'extrême droite propose pour notre pays. Il n'y a rien de bon à en entendre, ni localement, ni au niveau national.
Alors la question des musulmans de France, Bernard Godard, c'est par rapport à l'actualité internationale, au monde tel qu'il va, c'est aussi la question de l'islamophobie véhiculée souvent par le Front National.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs,
Écueil pour parler quand on parle de cette question musulmane.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la confiscation, en quelque sorte, par le Front National de la laïcité, qui est d'un principe, si vous voulez, de gouvernance ou de voie de fonctionnement à l'intérieur de la société entre les religions, devient une idéologie, idéologisée, on va dire, parce que c'est pas une idéologie, mais idéologisée, et dans le fond, et un certain nombre de forces politiques s'estiment obligées de se positionner par rapport à cette position du Front National. Et du coup, ça fausse un peu le jeu, et qui est l'ennemi de celui qui fausse effectivement cette laïcité idéalisée qui ne correspond pas, je le répète encore, à ce qu'est réellement la laïcité, eh ben, c'est les musulmans. Donc du coup, les musulmans deviennent un petit peu, peut-être pas le bouc émissaire, c'est beaucoup dire, mais enfin, l'objet qui permet de développer une certaine conception de la laïcité.
Alors, une précision pour bien comprendre ce que vous allez dire pendant cette émission, Bernard Godin, vous avez été monsieur culte musulman au ministère de l'Intérieur, non ? On peut dire les choses comme ça ?
Oui, bon, c'est-à-dire j'étais chargé effectivement pendant longtemps des relations avec le culte musulman, oui. Oui.
À quelle époque ?
Si vous voulez, de pratiquement en cabinet ministériel de 97 à 2002, et ensuite au bureau central des cultes. Mais toujours en relation avec le cabinet, les cabinets des différents ministres.
C'est-à-dire que vous suivez cette question depuis longtemps ?
Oui. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, quand j'étais auparavant 97, j'étais beaucoup plus sur le contexte géopolitique, si vous voulez, qui pouvait influer sur la vie des musulmans de France.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons commencer notre tour du monde, Bernard Godard, en Syrie, où l'organisation de l'État islamique a effectué une offensive spectaculaire aux portes de Damas ces derniers jours. Correspondance régionale de Paul Khalife, mercredi.
La prise d'une grande partie du camp palestinien de Yarmouk permet au groupe État islamique de s'implanter au cœur de la capitale syrienne pour la première fois depuis le début du conflit en 2011. Les djihadistes se trouvent désormais à 7 km au sud du centre de Damas. Des centaines de combattants de Daesh ont lancé une attaque surprise en direction du camp à partir du quartier voisin de Hajar el-Aswad. Ils ont profité de la complicité de plusieurs groupes djihadistes liés au front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui leur ont secrètement prêté allégeance. Dans leur progression, ils ont balayé une milice locale liée au Hamas palestinien appelée Aknaf Bayt al-Maqdis. Les combats se poursuivent dans certains points, mais la majeure partie de Yarmouk est tombée entre leurs mains. L'armée syrienne, qui encercle le camp de trois côtés, a réagi à ce grave développement sur le terrain en bombardant à l'artillerie et avec l'aviation plusieurs secteurs de Yarmouk. La majeure partie des 160 000 habitants palestiniens s'est réfugiée à Damas ou au Liban depuis la prise du camp par les rebelles il y a 2 ans. Mais selon diverses sources, près de 20 000 personnes sont encore sur place et vivent dans des conditions difficiles en raison du blocus imposé par les forces gouvernementales.
Suite d'une semaine d'actualité, les négociations sur le nucléaire iranien, elles se sont conclues provisoirement jeudi sur un accord cadre qui doit être signé définitivement au plus tard le 30 juin prochain. Envoyé spécial à Lausanne, Nicolas Falaise.
Selon le texte approuvé à Lausanne, l'Iran va réduire son parc de centrifugeuses, diminuer son stock d'uranium enrichi, transformer certaines de ses installations nucléaires et accepter des mesures de vérification. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, toutes ces mesures permettent de faire reculer le scénario du pire.
C'est un compromis qui éloigne l'Iran de la bombe. Aujourd'hui, on sait, et cela a été confirmé, qu'il faudrait 2 à 3 mois pour l'Iran pour accélérer son programme d'enrichissement et produire assez de matières fissiles pour fabriquer une bombe atomique. Mais avec cet accord, cette période s'allonge, elle passe à 1 an. C'est donc 6 fois plus de temps qu'aujourd'hui.
L'Iran a toujours dit qu'il ne voulait pas la bombe, mais un programme nucléaire civil. Pour le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, la souveraineté nucléaire de Téhéran est préservée.
Aucune de ces mesures ne prévoit la fermeture d'une de nos installations. Le fier peuple iranien ne l'accepterait jamais. Nos installations ne vont pas s'arrêter. Nous allons poursuivre l'enrichissement, la recherche-développement. Notre réacteur à eau lourde sera modernisé et l'installation de Fordo va continuer à fonctionner.
We will continue the Fordo facility. Si les engagements de Lausanne sont tenus, les sanctions internationales visant l'Iran seront levées, ouvrant un nouveau chapitre pour ce pays et pour sa relation avec l'Occident.
7 jours dans le monde.
Et Bernard Godard, il nous faut revenir cette fois sur l'offensive de l'Arabie Saoudite et de ses alliés contre les Houthis, ces chiites à l'assaut du pouvoir au Yémen. Une offensive que la population saoudienne approuve, semble-t-il. Clarence Rodriguez.
Au début de cette offensive qui a débuté dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la population saoudienne est passée du stade de l'étonnement, de l'observation, pour finalement soutenir unanimement la coalition menée par le royaume. Il y a comme une sorte de fierté nationale. On le ressent bien, on peut lire des messages de soutien publiés dans la presse locale. En revanche, et on le sait, l'Arabie Saoudite est un pays majoritairement sunnite. Mais il ne faut pour autant pas occulter ces chiites saoudiens qui représentent 20% de la population, implantés principalement à l'est du royaume, dans les sites pétrolifères. Des chiites qui subissent l'influence de Téhéran selon le gouvernement saoudien. Ils suivent donc avec grand intérêt ce qui se passe au Yémen et il est évident que l'opération Tempête décisive pourrait à nouveau soulever un vent de contestation dans cette région. Les autorités saoudiennes inquiètes sont très vigilantes. Pour en discuter en privé avec des Saoudiens, ils ne souhaiteraient pas que l'Arabie Saoudite s'engage dans une intervention terrestre. Il faut savoir que les 2000 km de montagne qui séparent l'Arabie Saoudite du Yémen présentent un terrain hostile. C'est beaucoup trop risqué. C'est la raison pour laquelle le Pakistan rejoint la coalition et envoie des troupes au sol plus expérimentées que les Saoudiens sur ce genre de terrain. C'est pour le roi Salman et son fils Mohamed bin Salman, jeune ministre de la Défense, cette opération tempête décisive constitue un baptême du feu. Il n'empêche que la population souhaiterait que cette guerre au Yémen ne s'enlise pas trop. Cela pourrait laisser des traces, des traumatismes indélébiles.
À noter aussi dans l'actualité internationale que la Palestine est devenue le 123e membre de la Cour pénale internationale. C'est une information importante qui aura sans doute des conséquences. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Bernard Godard. Que Bernadette Sauvager, dans un portrait qui vous est consacré dans Libération, qui vous était consacré il y a quelques années de cela, vous décrit comme un homme clé, incontournable de la gestion de l'islam en France. Ça doit vous faire rougir, votre modestie en prend un coup. En tout cas, vous avez écrit La question musulmane en France, un livre publié chez Fayard. Oui. Donc vous avez écouté ces reportages, différents reportages avec beaucoup d'attention.
Oui, parce que si vous voulez, ce qu'on pensait, ce qui a déjà été dit sur l'arc chiite et l'arc sunnite, on disait effectivement c'est une construction qui était tout à fait séduisante, mais bon, il y avait des spécificités. Les houthistes au Yémen, qu'est-ce qui peut les relier aux alaouites de Syrie, qu'est-ce qui peut les relier même à l'Iran.
Les houthistes d'ailleurs qui ont gagné quelques batailles cette semaine. Hein.
Oui,
c'est une vraie guerre.
Ah ben tout à fait. Du coup, alors il y a un arc chiite qui prend là vraiment une consistance précise, bien sûr, sur le contrôle et sous les conseils iraniens, mais effectivement ça prend une coloration, alors qu'on peut continuer à dire, ben non, c'est des choses stratégiques, on a un état iranien d'une part, et puis un certain nombre de forces politiques ailleurs, qui mettent en avant leur appartenance religieuse, mais c'est vrai que ça devient une réalité de plus en plus prégnante, c'est-à-dire que même si on disait que le religieux était un simple prétexte, si vous voulez, à sujet, on l'avait vu dans le conflit entre l'Irak et l'Iran, oui. Entre 1980 et 90, où effectivement, du côté de Saddam Hussein, on avançait effectivement la mer des batailles, c'est-à-dire on faisait référence à tout un passé au début de l'islam pour dire qu'effectivement on retrouve cette bataille entre chiites et sunnites. Ça n'avait pas forcément pris, de la même que vous voyez, Khomeini, ça n'avait pas forcément pris. Or là, c'est vrai quand même ce qui est inquiétant, est-ce qu'on doit penser que cet arc chiite a une vraie consistance religieuse? Voilà, je parle de ce que je connais. Bon, pour le moment, on n'en a pas la preuve, mais on voit que ça coalise, ça cristallise, si vous voulez, tous les gens qui ont à un moment besoin de s'opposer à cette coalition saoudio-égyptienne.
Et en France, pour revenir aux musulmans de France, bien qu'il ne faille pas les réduire à cela, cela mobilise aussi un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, qui partent faire le djihad. On les estime à un peu plus de 3000 personnes aujourd'hui, non?
Oui, à peu près, oui. Oui,
concernés, en tout cas, par dont à peu près 9% de jeunes.
Oui, de jeunes, de mineurs. De oui, mineurs, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et 23% de convertis, à peu près. Et puis, et aussi pas mal de femmes. Bon, je sais pas les proportions exactes. Bon, tout ça, c'est effectivement, ça montre que c'était une question qui va bien au-delà de ceux qui sont de culture musulmane, nés dans un milieu musulman, et que ça commence à pour ces différentes raisons, à s'étendre. Voilà.
Il n'y a pas de statistiques, évidemment, mais est-ce qu'on a une idée du nombre de musulmans en France? Vous dites, il me semble dans le livre, qu'on les estime à 4-5 millions, c'est ça?
Alors, si vous voulez, c'est toujours pareil, parce qu'aujourd'hui, alors ça, c'est en France, pendant longtemps, on n'avait pas de statistiques. Toujours pas, c'est toujours pas autorisé. Mais c'est vrai que, pour les musulmans, contrairement aux autres cultes, on parlait de musulmans culturels, sociologiques, etc. Et on faisait pas la différence trop. Alors, on disait, alors on peut aller jusqu'à 6 millions, si on veut, entre 5 et 6 millions. Si vous voulez, de ce point de vue-là, qui ont des origines culturelles musulmanes à différents titres. Mais si vous voulez, dans les enquêtes qui ont pu être faites par l'INED en particulier, ou par certains sondages, bon, globalement, ceux qui revendiquent une foi musulmane qu'ils affichent, etc., on a un chiffre invariable qui est autour de 2 millions. Donc, vous voyez, ça correspond pas tout à fait à ceux qui sont déclarés musulmans avec 6 millions. Ensuite, vous avez ceux qui sont dans ces 2 millions déclarés, vous avez ceux qui sont... Quels critères doit-on prendre quand on fait une comparaison avec les autres cultes? Eh ben, si on prend le critère de l'assistance hebdomadaire à la prière, on tombe encore par rapport à une population globale, on dit c'est autour de 15%. Bon, c'est un peu plus élevé que les autres cultes, mais en même temps, parce que bon, bah, il y a aussi le côté communautaire de la pratique de prière du vendredi, on peut aussi trouver d'autres raisons qui expliqueraient cette, mais disons que globalement, il y a quand même une pratique qui est supérieure aux autres, ceux qui sont censés appartenir aux autres religions. Voilà.
Avec un phénomène notable que les services de renseignement soulignent, c'est la progression du salafisme au sein de l'islam en France.
Oui, tout à fait. C'est le salafisme, c'est un phénomène qui est apparu dans les années 90 et qui a pris de l'ampleur à partir des années 2000, qui dans les années 2000 jusqu'en 2010 était un phénomène, si vous voulez, d'adhésion, mais qui était très quiétiste. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agissait pas d'investissement dans des causes politiques ou quoi. Et surtout, c'était, pour être un vrai salafiste, c'est pas possible de le faire dans un pays d'incroyance, entre guillemets. Du coup, voilà. Mais depuis 2010, il y a des gens qui disent, bah non, mais d'abord parce ils ont fait ce qu'on appelle la hijra, c'est-à-dire leur exil en pays musulman, ils en sont revenus, ça les satisfaisait pas, donc du coup se pose la question aujourd'hui comment être salafiste dans un pays d'incroyance en France, est-ce qu'il faut composer au minimum ou effectivement être en rupture, enfin il y a des tas de questions qui se posent autour de ça.
Voilà. C'est un phénomène essentiellement urbain, non? Dans les grands centres urbains, non?
C'est urbain et périurbain, c'est-à-dire pas forcément la campagne profonde, bien sûr, mais c'est un phénomène qu'on peut rencontrer maintenant dans toute la France, dans des petites villes aussi.
Ouais, on dit qu'il y a à peu près 90 lieux de culte aujourd'hui salafistes en France sur, vous dites, 2500 mosquées en France aujourd'hui.
2300 à peu près, c'est ça. Et c'est à peu près 90 déclarés, mais il y a aussi d'autres mosquées, presque le double, qui sont plus ou moins investies, un peu chahutées par des groupes salafistes qui cherchent à faire entendre leur voix.
Donc ça veut dire que ce salafisme progresse.
Oui, il reste très minoritaire, mais il progresse. Il progresse régulièrement.
À votre avis, c'est dû aussi à cette actualité internationale dont nous parlons dans cette émission et sur RFI tous les jours, la Syrie, l'Irak, le Yémen, etc.
Alors, je vais vous dire, pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut... la séparation, pour beaucoup, apparaît artificielle entre le salafisme quiétiste, c'est-à-dire qui concerne un renforcement de la foi, l'adhésion à un système qui est le système salafiste, qui est un système clos, c'est-à-dire début, la grandeur de l'islam, 2 siècles, ensuite toute une période qu'on occulte complètement, et en bout de course, c'est l'apocalypse. Donc du coup, on est il y a deux bouts, et donc ça, effectivement, ça exerce une attraction très forte, en dehors du phénomène, effectivement, géopolitique. Et bon, je crois pas qu'à ce niveau-là, ce soit cela qui détermine l'adhésion.
C'est ce que vous appelez l'islam d'identité?
Oui, c'est aussi un islam d'identité. C'est-à-dire, les salafistes procèdent aussi à leur manière dans un islam d'identité. Ils ne sont pas les seuls.
Bernard Godard, nous allons écouter maintenant quelques informations de ces dernières heures. On parlera sans doute du Proche-Orient et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour continuer à revivre 7 jours d'actualité avec, bien sûr, les reportages des correspondants et des envoyés spéciaux de RFI.
Pierre-Edouard Deldic.
La question musulmane en France est le titre du livre de notre invité Bernard Godard, ouvrage publié chez Fayard. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous bien sûr avec vos messages. Mais tout de suite, l'actualité française avec d'abord un retour sur le second tour de l'élection départementale dimanche dernier. La droite a donc gagné 67 départements, elle en avait 40 avant le scrutin, et la gauche en dirige 34 désormais au lieu de 61. Véronique Rigolet.
C'est une large victoire de la droite, de l'UMP alliée aux centristes de l'UDI, qui remporte les deux tiers des départements, avec des conquêtes très symboliques, celles des fiefs du président Hollande et du premier ministre Valls, la Corrèze et l'Essonne, qui basculent donc toutes deux à droite. Le patron de l'UMP, Nicolas Sarkozy, entend maintenant lancer au plus vite un projet d'alternance, sans doute dès le congrès du parti en mai prochain, pour préparer la bataille des régionales en fin d'année. Le succès de la droite se traduit par une lourde défaite de la gauche, qui perd sa suprématie territoriale, et s'attend à des lendemains difficiles, alors que les frondeurs du PS devraient, dès ce lundi, à nouveau bruyamment demander des comptes à l'exécutif, notamment un changement de politique et un renouvellement de la pratique du pouvoir. Enfin, demi-échec pour le Front National, qui échoue à transformer en victoire les 25% de voix obtenues au premier tour et ne remporte aucun département. Le FN renforce néanmoins son maillage territorial avec plusieurs dizaines d'élus départementaux, un ancrage important pour les futures régionales.
Bernard Godard, revenons maintenant sur le crash de l'A320 de Germanwings. La semaine dernière, on a consacré notre émission samedi dernier à cette catastrophe. Avec ces jours-ci, de nouvelles révélations sur le pilote Andreas Lubitz, non pas dans la presse, mais via la justice allemande. Pascal Thibault à Berlin.
Le pilote a été en traitement psychothérapeutique pour des tendances suicidaires il y a plusieurs années. Le procureur de Düsseldorf, Ralf Herrenbrück, a donc confirmé des informations de presse faisant état de problèmes psychologiques d'Andreas Lubitz durant sa formation de pilote, des problèmes qui l'avaient conduit à interrompre ce cursus. Le parquet de Düsseldorf a toutefois précisé que ces traitements pour tendance suicidaire s'étaient limités à une période antérieure à l'obtention par Andreas Lubitz de sa licence de pilote. Le procureur a ajouté que des consultations médicales plus récentes avaient eu lieu, sans en dire plus sur leurs raisons. La presse allemande a affirmé que de nombreux médicaments destinés à traiter des problèmes psychologiques avaient été retrouvés au domicile d'Andreas Lubitz. Le quotidien Bild am Sonntag avait ce week-end parlé d'un décollement de la rétine. Ces diverses informations alimente en Allemagne un débat sur le secret médical et la nécessité ou non de l'assouplir pour des métiers à risque comme celui de pilote. Des responsables politiques soutiennent cette proposition ainsi que le patronat allemand. L'ordre des médecins s'y oppose.
Et on a appris mardi que le copilote avait informé la Lufthansa, sa compagnie, donc qu'il avait souffert de dépression. À noter enfin la découverte jeudi de la seconde boîte noire qui a enregistré, elle, les données du vol. Données qui confirment une action volontaire de ce pilote de se cracher contre la montagne. Suite d'une semaine d'actualité, Bernard Godard, on va revenir, je ne vais pas vous demander un commentaire sur les départementales. Ce qu'il faut noter, c'est que, en tout cas, que ce qu'on appelle les collectivités locales, les villes, les communes, sont confrontées, je dirais pas toutes, mais pour beaucoup, à la construction, on parlait des mosquées tout à l'heure, des mosquées. Et à chaque fois, ça crée un débat pour le moins vif.
Oui, l'échelon le plus concerné, c'est l'échelon municipal, bien sûr. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, des fois, les conseils généraux, les conseils départementaux maintenant, s'impliquer par un mode de financement de l'activité culturelle des lieux de culte, musulmans en particulier. Il y a des initiatives aussi qui sont lancées de temps en temps par les conseils généraux pour le dialogue interreligieux, par exemple. Donc, effectivement, on voit les conseils départementaux qui commencent à rentrer un petit peu dans toutes ces problématiques.
Alors, on parlait des mosquées tout à l'heure. Il ne faut pas s'imaginer que ce sont des bâtiments somptueux, rarement. Vous dites, à part peut-être la mosquée de Paris construite en 1926,
oui, c'est ça,
hein, vous dites que plus de 90% de ces mosquées sont des mosquées pavillons.
Oui, ce qu'on appelle mosquées pavillons, ou des mosquées effectivement à contenance, à réception modeste, et qui correspond surtout à un islam de proximité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens recherchent au plus près un lieu de culte. En plus, ce sont des petites communautés, souvent qui sont à l'origine depuis 30 ans de la construction de ces lieux de culte, donc on n'a pas d'ensemble, si vous voulez, plus grand que le pavillon, quoi.
Alors parlons maintenant de l'organisation du culte musulman en France, parce que vous avez chapeauté tout ça, et notamment la création de ce que l'on appelle le Conseil français du culte musulman en 2003. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible, parce qu'il me semble que c'est un peu compliqué, l'organisation de l'islam en France, parce que en plus il y a l'influence de plusieurs pays différents, comme par exemple le Maroc, l'Algérie ou la Turquie.
Oui, tout à fait. Alors, comme je vous répète dans la continuité de ce que j'ai dit précédemment, c'est que l'unité de base, c'est la mosquée de proximité, et c'est au sein d'une municipalité, c'est là que se passe la vie musulmane, dans les relations en particulier avec les pouvoirs publics, avec les notabilités locales. Du coup, quand on a l'idée de la création d'un organe du culte plus centralisé au niveau national, parce que c'était nécessaire par rapport à l'évocation d'un certain nombre de questions, effectivement, les musulmans n'étaient pas préparés à ça, puisque effectivement, alors il y avait des fédérations, c'est-à-dire des gens qui regroupaient les mosquées ou les croyants, mais ces fédérations, si vous voulez, je dis pas qu'elles n'étaient pas représentatives, elles étaient là pour à un moment répondre à un certain nombre de besoins, mais dans le fond, le musulman de base était avec sa mosquée, le conseil d'administration de la mosquée était organisé par des musulmans locaux, et voilà. Et là, tout d'un coup, on leur dit, non, mais il va falloir que vous vous positionnez par rapport à une ligne nationale. Et là, si vous voulez, ils n'étaient pas préparés. Donc, du coup, c'est là que sont rentrés en jeu un certain nombre de fédérations. Les pays d'origine, comme on dit, le Maroc, l'Algérie, mais la Turquie en particulier, n'étaient pas préparés vraiment à ça.
Pour expliquer pourquoi ce sont ces pays d'origine. Ce sont les pays originaires des pratiquants.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Clair, oui, parce que je parle des années 2000. Ouais. Donc, c'est fin des années 90. C'est parce que aussi, même si l'islam n'est pas simplement l'islam en général, des gens qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée ou en Turquie, par exemple, sont importants. Mais dans les mosquées, ceux qui ont construit les mosquées, ceux qui les gèrent encore, sont plutôt des gens, effectivement, qui sont, comme on dit la formule, issus du bled. Et on n'a pas la passation, si vous voulez, pouvoir s'effectue lentement, parfois difficilement. Donc, du coup, il y a une différentielle et ces gens-là sont beaucoup plus attachés, non pas au pays d'origine, mais quand on leur pose la question d'une sensibilité religieuse, ils se tournent automatiquement vers les pays d'origine, en particulier sur le magistère religieux.
Mais en lisant votre livre en particulier, Bernard Godard, on s'aperçoit que cette histoire du Conseil français du culte musulman est émaillée de tas de crises et ça continue aujourd'hui.
Il y a eu surtout là une difficulté à le monter parce que ça a été une histoire longue entre 99 et 2003 de discussions très très longues d'ailleurs pour savoir quelle forme lui donner, tout le monde s'observant, etc. À la limite, certains ont dit que c'était presque une usine à gaz tellement c'était...
Mais avec des rapports de force très clairs géopolitiques entre le Maroc, l'Algérie et la Turquie encore.
Absolument. Alors, d'abord la Turquie d'abord, il y a une personnalité très particulière, très forte, même si les Turcs sont pas aussi importants au niveau population en France, mais au niveau de l'existence de lieux de culte, par exemple, oui, ils sont très importants. Ensuite, il y a effectivement je le dis dans le livre précisément,
L'Algérie et le Maroc.
L'Algérie et le Maroc est effectivement une espèce de débat qui pourrit carrément, disons le mot, la vie de l'islam en France à cause de ces querelles algéro-marocaines qui s'immiscent dans tous les débats, qui va disparaître, je crois, de plus en plus, mais qui effectivement, en tout cas au moment où ça s'est constitué, le Conseil français du culte musulman a été très présent.
Parce que la mosquée de Paris, par exemple, c'est l'Algérie, non, c'est ça?
Oui, la mosquée de Paris, c'est l'Algérie, mais si vous voulez, beaucoup de lieux de culte, beaucoup de ce qui concerne la vie cultuelle musulmane, les Marocains y occupent une place pas hégémonique, peut-être moins, mais très importante.
Alors ce qui est intéressant, et ça vous avez vécu ça de l'intérieur, Bernard Godard, c'est la volonté qu'a eu le pouvoir politique d'organiser l'islam.
Alors, si vous voulez, cette...
Nicolas Sarkozy, notamment, par
oui. Si vous voulez, ça a commencé en 89 avec Pierre Joxe, donc du coup, c'est peut-être pas d'aujourd'hui. Ça a correspondu à une
volonté... Jean-Pierre Chevènement, que vous connaissez bien aussi.
Oui, voilà. Et c'est Jean-Pierre Chevènement, en tout cas le CFCM, et le produit direct de ce qu'est l'initiative qui a été lancée par Jean-Pierre Chevènement en 99. Mais, si vous voulez, cette question, elle est en même temps... Alors, on dit souvent que c'est une initiative ou que c'est une volonté des pouvoirs publics. Ça peut l'être, d'une certaine manière, mais c'est aussi, du côté des musulmans, une demande forte d'une certaine existence comme les autres cultes, à l'image des autres cultes dans l'espace national. Alors je sais que ça paraît très symbolique, ça. C'est aussi symbolique que la présence des musulmans sur le perron de l'Élysée au moment d'un certain nombre, on le voit
lors des attentats
de faits. C'est aussi par exemple l'évocation de questions qui sont d'ordre du national et pas simplement du régional. C'est sûr que toute la vie musulmane, la vie religieuse est surtout au niveau local, mais il y a aussi des questions qui sont à évoquer au niveau national. Il faut bien des gens pour les évoquer.
Des interlocuteurs, pour les pouvoirs politiques, laïcs. Une république laïque.
Tout à fait.
Une semaine d'actualité.
Nous partons pour l'Afrique maintenant avec bien sûr les élections au Nigeria, on y revient, présidentielles notamment, et la victoire donc d'un ex-général qui a déjà dirigé le pays d'une main de fer d'ailleurs, Muhammadu Buhari, correspondance de Binetta Diagne.
Emmitouflé dans un boubou bleu ciel, l'air concentré derrière ses lunettes rondes, Muhammadu Buhari se présente comme un rassembleur.
Vous avez voté pour un changement pour le bien de tous les Nigérians. Et je dois avertir les électeurs qui ne m'ont pas choisi, tout comme ceux qui se sont abstenus, que nous formons une seule et même nation. Nous sommes tous des Nigérians.
Mais sa priorité, c'est surtout de faire reculer le groupe Boko Haram qui déstabilise le nord-est du pays, une zone qu'il connaît bien et qui a majoritairement voté pour lui à cette élection.
Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et pour ramener la paix.
Aucun calendrier précis n'a été fourni, mais dans son programme de campagne, ce général à la retraite avait affirmé vouloir mettre les militaires dans de meilleures conditions. Il promet notamment d'améliorer l'équipement des soldats pour mieux réagir aux attaques de Boko Haram.
Alors, qui est vraiment Muhammadu Buhari? La réponse de Nicolas Champeau.
Muhammadu Buhari n'est pas du genre à jeter l'éponge. Il a été 3 fois candidat malheureux à une présidentielle. La 4e tentative du général aux dents du bonheur aura donc été la bonne. Même s'il a déjà exercé le pouvoir, c'était en 1984 à la faveur d'un coup d'État. Son mandat de 20 mois a été ponctué de nombreuses atteintes aux libertés et d'une campagne stricte contre l'indiscipline et la corruption. Il laisse le souvenir d'un dirigeant autoritaire, mais au fil des années, il se serait assoupli. Il se définit aujourd'hui comme un converti à la démocratie. Avec Buhari, le Nigeria renoue avec un musulman au palais présidentiel d'Aso Rock. Il est originaire de Katsina, un état du nord qui jouxte les provinces de Kano et de Kaduna. Buhari s'est prononcé à plusieurs reprises pour l'application de la charia dans le nord. C'est un homme charismatique. Il a réussi à faire rire les foules lors des meetings, note l'homme d'affaires Tolu Jinaidu, qui l'a accompagné durant toute la campagne. Une campagne parfois tendue. Buhari a survécu à une attaque contre son convoi au mois de juillet, mais le septuagénaire, il a 72 ans, a tenu bon et continué à sillonner le pays avec souvent à la main un petit balai de paille pour symboliser sa volonté de changer en profondeur le pays.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, Bernard Godard au Kenya, cette fois avec jeudi une attaque particulièrement meurtrière des milices Shabab sur le campus de Garissa, une ville qui se situe à environ 150 km de la frontière somalienne. Plus de 140 morts, Olivier Roger, hier vendredi.
Ils ouvraient le feu sur tous ceux qu'ils croisaient. Voilà ce qu'ont raconté les étudiants qui ont pu échapper au pire carnage qu'ait connu le Kenya. 4 hommes, armés de fusils mitrailleurs AK-47, ont pénétré hier, juste avant l'aube, sur le campus de l'université de Garissa. Ces hommes, membres de la milice Shebab, ont ensuite pris en otage 400 étudiants environ, répartis dans 6 dortoirs. Ils ont libéré 50 musulmans, gardant captifs les chrétiens, racontent les journalistes présents sur les lieux. Les forces de l'ordre sont arrivées 1 heure environ après le début de l'attaque et ont encerclé les bâtiments. Durant les 15 heures suivantes, policiers et militaires échangent des coups de feu avec les terroristes avant de lancer un assaut final vers 22 heures. Dans les ultimes instants, plusieurs terroristes explosent avec leurs ceintures piégées sans que l'on sache précisément s'ils ont volontairement actionné leur engin. Des policiers sont blessés par ces explosions. Depuis que l'armée kenyane est en Somalie pour combattre les Shebab, le Kenya est exposé aux attaques de représailles. Une série de raids en juin et en juillet de l'an dernier sur la côte kenyane ont coûté la vie à près d'une centaine de personnes. On se souvient aussi de l'assaut lancé contre un centre commercial de Nairobi en 2013. Il a fait 67 victimes.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, au Rwanda précisément, dont le président Paul Kagame ne se sent pas vraiment concerné par les appels de certains pays, la France, les États-Unis par exemple, aux dirigeants africains de ne pas modifier leur constitution pour rester au pouvoir, il l'a dit à nos confrères de Jeune Afrique. Mais le président du Rwanda ne se dit pas favorable pour autant à un changement de la constitution rwandaise, lui permettant de briguer un nouveau mandat. Correspondance de Kigali, signée Stéphanie Aglietti, jeudi.
Le président rwandais a beau dire que l'on a trop parlé du troisième mandat, les questions à ce sujet se suivent et se ressemblent. La position du président a quant à elle un peu évolué. Il existe deux écoles, explique Paul Kagame, celle qui estime que la constitution ne doit pas être changée et celle qui assure que cette décision appartient au peuple et que le Rwanda doit donc garder le même dirigeant. J'appartiens à la première école, affirme le président rwandais.
Ceux qui estiment qu'il faut changer cet article dans la constitution ont le droit de le penser, mais étant donné que cela me concerne personnellement, il faut me convaincre. J'écoute ce que ces gens disent, mais il faut une bonne dose de persuasion pour que je change d'avis.
Flottement dans la salle, comme sur les réseaux sociaux. En êtes-vous certain ? Demande sur Twitter un député mobilisé jour et nuit en faveur d'un troisième mandat à un journaliste rapportant les propos du président. Dans la salle, une journaliste de la Radio Nationale.
Mais des gens menacent de se suicider et même de quitter le pays si vous ne vous représentez pas. Vous ne trouvez pas ça assez convaincant ?
Eh bien, il va falloir en entendre plus.
Et pas seulement de la part de ceux-là, précise Paul Kagame, mais également de ceux qui disent que la démocratie est juste une question de limitation de mandat.
Suite et fin d'une semaine d'actualité en Afrique avec peut-être la fin d'une énigme historique dans les mois qui viennent, à savoir la vérité sur la mort d'un ancien secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, dans un accident d'avion suspect pour le moins au Congo en 1961. Mélissa Chemam.
Créé par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre dernier, le groupe d'experts doit présenter son rapport au secrétaire général au plus tard le 30 juin prochain. Ban Ki-moon a nommé Mohamed Chande Othman, juge en Tanzanie, à la tête de ce groupe. Les deux autres membres sont Karine McCauley, représentant de l'Australie au Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et Henry Clarkson, un expert en balistique au Centre National des Services Judiciaires au sein de la Police Nationale Danoise. Dag Hammarskjöld, le deuxième secrétaire général de l'histoire de l'ONU, est mort dans des circonstances qualifiées de mystérieuses en septembre 1961, quand son avion s'est écrasé près de Ndola, à l'époque en Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie. Il effectue alors une mission de paix au Congo qui venait d'obtenir son indépendance. Il devait rencontrer le dirigeant du Katanga, Moïse Tshombe, alors que la région avait fait sécession. 15 corps avaient été récupérés ainsi qu'un survivant, Arnold Julien, décédé quelques jours plus tard. En septembre dernier, une commission internationale de juristes avait indiqué qu'il y avait des preuves que l'avion ne s'était pas écrasé par accident, mais qu'il avait été touché par un tir ennemi. Le rapport de juin prochain pourra peut-être enfin élucider ce mystère vieux de plus de 50 ans.
Actualité semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire. En voici quelques-uns, comme chaque samedi. Bernard Godard, un bonjour à Gabiro Fiacre. Et je suis, dit-il, l'un des fidèles auditeurs de l'émission. Une semaine d'actualité à Bangui, à propos des élections au Nigeria. Il écrit, pour juste dire, écrit-il, chapeau à l'organe chargé d'organiser les élections, qui a fait un travail impeccable, dit-il, et en particulier au président Goodluck, qui a accepté de quitter le pouvoir librement et a reconnu sa défaite. Et cela, écrit-il toujours, est un bon exemple pour les autres présidents africains qui font tout pour s'éterniser au pouvoir. Fin de citation. Bonjour à So Amadou, je suis à Conakry, j'aime votre émission, écrit-il, et je vous écoute tous les samedis. Merci So Amadou, bon week-end, un salut à Baba Ousmane et à Willy, ainsi qu'à Tierno Ibrahima Diallo. Pourquoi y a-t-il, se demande-t-il, une coalition arabe pour libérer le Yémen et pas la Palestine? C'est une question qu'il nous pose aujourd'hui. Enfin, un petit bonjour à Adia Iratou à Abidjan.
Semaine d'actualité.
Et nous retrouvons Bernard Godard, auteur de La question musulmane en France. Mais avant de revenir à La question musulmane en France, il faut nous arrêter donc en Afrique. Il y a cette séquence de résumé de l'actualité africaine. Vous êtes l'auteur d'un... Vous avez travaillé sur un atlas géopolitique de l'Afrique.
Oui, un co-auteur, on était quatre personnes, sur l'atlas géopolitique de l'islamisme dans le monde, publié en 2003 chez Bayard. Et effectivement, j'avais eu à travailler un petit peu sur la question de l'islamisme en Afrique.
Et effectivement... Et donc, ce qui s'est passé au Kenya n'est pas... Et tout sauf une surprise.
Alors, c'est une tension qui est déjà, c'est-à-dire que les Shabab, que les groupes somaliens risquaient à essayer d'aller dans le sud, c'est pas nouveau. Il y avait eu quand même en Mombasa les attentats d'Al-Qaïda, donc c'est une zone qui était déjà familière. En revanche, ce qui a été relativement nouveau, c'est ce qui s'est passé au Mali, même s'il y avait des introductions, et plus récemment, la situation au Niger, où on a vu de manière très 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 crue l'influence du salafisme. Qu'est-ce que ça a pu donner aujourd'hui?
Alors, puisque vous parliez du Mali, je salue un autre auditeur qui nous écoute à Mopti au Mali et qui s'appelle Taïrou Diakité. Bernard Godard, à propos de l'islam en France, vous distinguez trois islams en quelque sorte, l'islam d'identité, l'islam de rupture et l'islam de confession.
Oui. Alors, islam d'identité, bon, alors c'est peut-être arbitraire comme partage, mais il faut bien à un moment donné qu'on ait des concepts pour essayer de cerner au plus près le premier. Et identitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une manière d'affirmer, c'est un phénomène qui touche toutes les religions. On a eu un judaïsme identitaire au début des années 80, effectivement, très marqué. Et bon, dans le cas musulman, c'est les signes religieux, hein, on sait ce que c'est l'alimentation. Ça se manifeste aussi sur des prises de position sur la cause, les causes musulmanes dans le monde. Oui. Ces causes musulmanes, c'est qu'on les donne à voir de plus en plus par un certain nombre de sites communautaires en disant ben oui, ben c'est les musulmans oppressés dans le monde.
Et alors il y a l'islam de rupture aussi.
Alors, l'islam de rupture, c'est le salafisme, c'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'au début des années 2000, la plupart des gens, y compris ceux qui étaient ce que j'appelle les fréristes, qui ont été formés par les frères musulmans du Wouyef, ou alors par des personnels comme Tariq Ramadan, bon, même si on contestait un peu leur agressivité par moment, c'était quand même le désir d'être dans la citoyenneté française complète, pleine et entière. Or là, on est avec des gens qui ne sont pas du tout préoccupés de la citoyenneté ou de leur inscription en France, mais qui sont dans une ouma, quelquefois imaginaire, et quelquefois ça prend des proportions dangereuses quand c'est une ouma imaginaire qui se situe en Syrie. Mais effectivement, avec le salafisme, on n'est plus du tout dans le...
Ah, ce sont des gens qui ont toujours vécu en France.
Oui. Tout à fait. La plupart, 80% des salafistes sont des gens qui ont vécu en France et qui ont été socialisés, scolarisés en France.
Et vous dites aussi, Bernard Godard, que ces radicaux sont souvent des convertis de fraîche date.
Oui, il y a une part non négligeable de ces gens qui sont des convertis de fraîche date. Bon, alors, au mieux, quand ils veulent perfectionner la connaissance, même dans le sens salafiste, ils deviennent quiétis, ils deviennent très exigeants sur la licéité ou la non-licéité de tel acte, de telle la consommation. Et puis après, ceux qui sont les plus légèrement, j'ai envie de dire adeptes, mais qui veulent tout de suite aller effectivement à une solution radicale, se retrouvent dans le djihadisme.
Et enfin, il y a selon vous l'islam de confession.
Alors la confession, c'est-à-dire que l'islam est en train de s'installer en France, et je crois que c'est une bonne nouvelle, un peu comme les autres, comme une confession, c'est-à-dire que ils ont compris qu'au-delà, si vous voulez, de la vie culturelle, il y a un certain nombre d'activités, par exemple caritatives, pas pour tous, mais pour certains, d'activités contre l'enseignement confessionnel, et ils épousent, ils adoptent un peu le modèle un peu plus sécularisé. Donc c'est une sécularisation en soi. Donc c'est pour ça, il faut plutôt la saluer. C'est-à-dire plus effectivement les musulmans pour s'inscrire dans l'espace public français et même privé dans le sens confessionnel, dans le sens effectivement nous avons notre morale, notre identité musulmane, nous voulons la faire valoir au travers d'un certain nombre d'activités, mais à côté des autres religions et dans la proportion de la sécularisation. Voilà, c'est un peu ça le propos que j'ai essayé d'avoir.
Et vous revenez aussi dans ce livre sur la formation des imams, qui était oui. Une autre grande interrogation hein, sur l'islam de France. N'importe qui peut être imam.
Oui, n'importe qui peut être imam. Et c'est vrai que parce qu'on a une culture qui est habituelle dans les pays musulmans, qui est effectivement, contrairement à ce qu'on dit, on dit qu'il n'y a pas de clergé peut-être, mais en tout cas, c'est l'État et c'est souvent les pouvoirs publics qui prennent en charge toute cette question. Or, en milieu démocratique, République sécularisée d'Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. Non, c'est pas le cas. C'est effectivement une liberté totale qui est donnée au culte, de n'importe quel culte, de s'organiser pour produire et pour éduquer ses futurs cadres.
Ce qui est intéressant, c'est de constater, Bernard Godin, ce sera ma dernière observation ou question, c'est à quel point la République française laïque s'intéresse au culte musulman.
Ah oui, c'est clair, oui, tout à fait, parce que, c'est dans le souci, il y a la question de l'ordre public, hein, bien sûr, au sens large, hein, pas dans le sens de risque, mais dans le sens, effectivement, réguler un peu la vie sociale de manière à ce que les choses se passent pas de manière trop brutale. Voilà.
Merci, Bernard Godard. Votre livre s'intitule, je rappelle, La question musulmane en France, un état des lieux sans concession, c'est le sous-titre, et non pas sans confession, est publié chez Fayard. C'est la fin de cette édition d'une semaine d'actualité, un magazine réalisé bien sûr par Vanessa Rovensky. Retrouvez-nous aussi sur le site de la radio, www.rfi.fr, pour podcaster l'émission, par exemple. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, et nous serons en compagnie du grand philosophe François Julien, spécialiste de la philosophie chinoise, qu'il met en vis-à-vis de la philosophie européenne. C'est passionnant. Demain, 17h10, heure de Paris, à la radio, et quand vous le souhaitez, sur le site de la radio. Donc, bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI, bien sûr.